L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Sirène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que...
Das Kapital, il ne dit pas der Kapitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010, à la découverte de nos origines, une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais.
Bonsoir. En ce mercredi 21 avril, l'Agora des Savoirs vous présente, en partenariat avec Divergence FM, la conférence inaugurale de son troisième cycle. Après un premier cycle consacré à l'univers, la terre et le vivant, puis un second qui portait sur l'homme, la société et la culture, ce troisième et dernier cycle, qui s'achèvera le 16 juin, questionnera la notion de modernité. Qu'est-ce qui définit notre modernité, cette modernité qui n'en finit plus de finir, crise après crise? Quels furent ses commencements, ses fondations, son imaginaire, ses mythes fondateurs? Et ces crises qui l'affectent ne plongent-elles pas leurs racines aux sources mêmes de cette modernité? Voici quelques-unes des questions qui seront traitées tout au long de ce troisième cycle. Donc, pour ouvrir ce cycle, la salle Rabelais accueille ce soir Pierre Manant, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, pour une conférence qui s'intéressera aux naissances, au pluriel, de la politique moderne. Repenser la politique, ses notions, ses institutions fut un des grands chantiers de l'homme moderne, et ce, dès le début du XVIe siècle. Il fallait surmonter le désordre entraîné par la multiplicité des autorités, païennes et chrétiennes. Il fallait aussi répondre à l'horreur de ces véritables guerres civiles que furent les guerres de religion. Il fallait établir enfin un nouvel ordre politique construit selon la raison et le fruit de la volonté des hommes. Les grands artisans de ce chantier furent Machiavel, Hobbes, mais aussi Rousseau. Dominique Rousseau, quant à lui, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Montpellier 1, devrait, selon toute vraisemblance, introduire d'ici quelques minutes cette conférence en tant qu'intervenant local, selon la coutume de l'Agora des Savoirs. Rappelons que l'Agora des Savoirs est une initiative de la ville de Montpellier, que les conférences sont ouvertes au public de manière libre et gratuite, qu'elles se tiennent chaque mercredi à 20h30 à la salle Rabelais sur le boulevard Sarail à Montpellier, et que Divergence vous en propose chaque semaine la retransmission en direct. Bruno Bertrand assure ce soir la captation, Eliel Kaïm est en régie finale et Manuel Plaza assure la présentation de cette soirée que l'on vous souhaite bien bonne.
Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être venus assister à cette 21e rencontre de la première saison de l'Agora des Savoirs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de la ville montpellier.fr et sur le site de notre partenaire Parole de chercheur, Parole au singulier, chercheur au pluriel, les conférences qui ont déjà eu lieu. Je remercie aussi celles et ceux qui nous écoutent sur Divergence FM, car ils ne peuvent être là. Et je remercie enfin nos deux invités. Tout d'abord Pierre Manant, directeur d'études à l'EHESS. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette manifestation. Je laisse tout de suite la parole en le remerciant à celui qui a bien voulu le présenter ce soir, Monsieur Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à Montpellier. Passez toutes et tous une excellente soirée.
Bien, merci. Évidemment, mon rôle va être très limité. Il consistera simplement à à veiller au bon déroulement de notre conférence de ce soir, notamment en ce qui concerne le temps de votre parole et le temps de la discussion. Dire évidemment qu'on est très heureux d'accueillir ce soir Pierre Manant, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui est un des principaux théoriciens, philosophes du libéralisme, notamment du libéralisme politique. Pour une conférence donc ce soir sur la naissance de la politique moderne, notamment à partir des ouvrages classiques de Pierre Manant, hein, sur précisément naissance de la politique moderne, où Pierre Manant étudie les auteurs Machiavel, Hobbes et Rousseau, ou bien encore un ouvrage un peu plus récent sur la cité de l'homme. Pourquoi Régis m'a demandé d'être le modérateur ou d'animer ou de présenter ce soir la réunion, la conférence? Parce que entre les réflexions menées par Pierre Manant et les réflexions menées au sein de mon centre de recherche à la faculté de droit de Montpellier sur la question constitutionnelle, il y a des convergences. Pas nécessairement des convergences de compréhension, mais des convergences sur au moins les mots, les notions et les concepts. Car pour nous, juristes, la modernité part d'un grand texte qui est la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est-à-dire ce moment où les hommes se séparent de la référence à Dieu ou à un au-delà, à une transcendance. Que ce soit la nature, que ce soit la cosmologie, que ce soit Dieu, pour penser l'organisation de la cité uniquement à partir de la raison et de la volonté humaine. Et le texte de 1789 est considéré par les juristes comme le premier grand texte de la modernité politique, de la modernité juridique. Parce qu'il met en avant deux aspects. D'une part, une condamnation des pratiques de ce qu'on appelait l'Ancien Régime. Et puis, il trace ce que Garapon appelle les promesses, hein, de l'avenir. C'est-à-dire, il trace les principes à partir desquels la cité nouvelle doit se reconstruire. Et je crois qu'on oublie trop souvent ces deux aspects de 1789. 1789, c'est d'abord une condamnation pratique des pratiques de l'Ancien Régime avant d'être un texte qui fonde les principes d'une nouvelle société. Ou si vous voulez, il est les deux à la fois. Il est les deux à la fois et il place l'homme au centre de la reconstruction de cette cité. La liberté d'aller et venir, la liberté individuelle, la liberté d'expression. Et tous ces principes qui sont posés en 1789, et qui sont posés en 1789, il ne faut pas l'oublier, quand même, par des gamins. Cette déclaration que l'on croit aujourd'hui descendue du ciel et ayant toujours existé, elle a été écrite par des constituants, par des hommes essentiellement, qui avaient entre 18 et 35 ans, qui découvraient la capitale pour la première fois. Ils ont rédigé ce texte, que l'on dit aujourd'hui sacré, en 2 mois. Par conséquent, il faut aussi refaire la genèse de ce texte pour replacer la problématique des droits de l'homme dans l'histoire de la politique moderne. Mais ces droits qui ont été posés en 1789 sont des droits qui crée un nouveau lien social en ce que ce sont des droits de rapport, c'est-à-dire, et c'est en ce sens que je disais, qu'il casse les pratiques de l'Ancien Régime. Tous les droits de 1789 ne sont pas, contrairement à ce que Marx a pu écrire dans la question juive, ne sont pas des droits qui isolent l'homme des autres hommes, mais les droits de 1789 sont des droits qui ouvrent sur une relation des hommes entre eux, qui sont des droits qui conduisent les hommes à être reliés les uns aux autres. La liberté d'expression, la liberté de communication, qu'est-ce que c'est ? Sinon, précisément, communiquer pour se mettre ensemble et découvrir les règles de la vie bonne, les règles de la cité. Et ce sont des droits qui n'ont pas fini de produire aujourd'hui leurs effets. Pour vous donner un seul exemple, la liberté d'accès à Internet, donc une liberté tout à fait présente, tout à fait contemporaine, a été fondée sur l'article 11 de la déclaration de 1789. Donc vous voyez que cette déclaration de 1789 a toujours aujourd'hui, produit toujours des effets dans l'organisation de la cité des hommes, de la cité de l'homme, pour reprendre votre expression. Au point même, et ça pourrait être l'objet d'une discussion, que ces principes qui figurent dans la déclaration de 1789 semblent gêner nos gouvernants d'aujourd'hui, qui ne cessent de voter des lois qui portent atteinte à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité. La déclaration de 1789 tend à devenir aujourd'hui une gêne, un obstacle à une transformation dans un sens ultralibéral de notre société, dans la mesure où ces droits de 1789 créent du lien social et de la solidarité. Cette déclaration, et je pense que vous en parlerez, ces droits de l'homme qui sont au principe de ce lien social nouveau depuis 1789, évidemment ont été un peu chahutés lorsque la psychanalyse, la sociologie, l'économie aussi, ont commencé à questionner l'homme. Parce que qui dit droit de l'homme dit évidemment comme postulat que l'homme existe. Or, à partir du moment où Michel Foucault, Freud et d'autres nous ont dit que l'homme n'existait pas, que l'homme était une illusion, que l'homme était une invention, que l'homme était quelque chose à disparaître, comment peut-on continuer de manière crédible, de manière légitime, à parler des droits de l'homme si on déconstruit l'idée même d'homme ? Et une des crises, une des explications de la crise de la politique moderne tient en partie à cette interrogation sur l'homme, sur l'existence du sujet propriétaire et destinataire, auteur et destinataire des droits de l'homme. Donc on a aujourd'hui une double interrogation, une interrogation sur l'homme qui est titulaire des droits de l'homme. Est-ce que cet homme existe ? Et s'il existe, est-ce qu'il existe de manière séparée des autres ? Est-ce qu'il existe comme homme naturel ? Est-ce qu'il existe comme homme civique ? Et une interrogation qui rebondit sur les droits que peut posséder cet homme, certains considérant que le caractère ingouvernable de notre société tient à la multiplication des droits de l'homme. Est-ce que l'homme existe ? Est-ce qu'il y a trop de droits à l'homme ? Et est-ce que ces deux reliés ne sont pas constitutifs de la naissance d'une politique alors post-moderne ? Si la modernité, c'était l'affirmation de l'homme comme sujet et par conséquent des droits de l'homme pour reconstituer du lien social, si on déconstruit l'homme et si on ruine l'idée même de droit, passons-nous de la modernité politique à la post-modernité politique ? Ce sont toutes ces questions qui, derrière une actualité un peu mouvante, sont en jeu, je crois, dans les différents débats qui traversent aujourd'hui non seulement la société française, mais aussi la société européenne. Vous avez d'ailleurs écrit récemment un livre sur la question démocratique en Europe. Voilà toutes ces questions, je pense, qui vont être débattues ce soir de manière beaucoup plus savante que je n'ai pu le faire en introduction, pour réfléchir ensemble donc sur cette naissance de la politique moderne. Et c'est donc avec grand plaisir que je passe la parole à Pierre Manant pour nous éclairer sur ces problématiques diverses.
Merci beaucoup. Je vais vous décevoir parce que je n'avais pas prévu de parler des droits de l'homme, mais vous en avez fort bien parlé, donc je suis moins inquiet. J'avais compris que le thème de cette série était la question de la modernité, et donc, ayant travaillé sur l'histoire de la pensée politique et sur l'histoire politique, j'avais donc proposé aux organisateurs de dire un certain nombre de choses sur la modernité comme projet politique. Alors, je ne veux pas substituer ce titre à celui que vous avez sous les yeux, mais c'est plutôt celui-ci que je vais essayer de traiter, la modernité comme projet politique. Alors, nous sommes modernes maintenant depuis plusieurs siècles au moins. Autant dire que, à vues humaines, nous sommes modernes depuis la nuit des temps. Il n'y a personne parmi nous, même très âgé, dont l'arrière-grand-père n'ait pas vécu à l'époque moderne. On peut donc se poser légitimement la question de savoir quand nous cesserons enfin d'être modernes, quand nous passerons dans une autre période qui ne sera plus moderne et qui portera un nom que nous ignorons encore. Nous n'avons pas besoin de connaître les caractéristiques de la nouvelle période pour mesurer l'énorme bouleversement que représentera ou que représenterait pour tous la fin de la période moderne. Imaginez un monde dans lequel, par exemple, les gouvernements et les partis politiques cesseraient de vouloir moderniser la France. Un monde où nous ne nous regarderions plus selon la différence entre ce qui est moderne et ce qui ne l'est pas, ce qui est, comme on dit, je crois, ringard. Ce sera une si grande révolution que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Est-ce que cette révolution est prochaine ? Est-ce que nous cesserons bientôt d'être modernes ? Je ne possède pas le secret de l'avenir, mais il me semble que cette révolution n'est pas imminente, que nous allons encore longtemps être modernes, que nous allons encore longtemps nous moderniser. Alors pourquoi ? Nous resterons encore longtemps modernes, selon toute probabilité, parce que nous voulons être modernes. Et être moderne, en vérité, c'est d'abord vouloir être moderne. Or, nous le voulons. Depuis des siècles, cette volonté oriente toute la vie de nos sociétés. Nos sociétés, j'entends les sociétés européennes ou les sociétés occidentales, pour employer un terme qui est un peu passé de mode, Occident, occidental, mais il faut bien intégrer l'Amérique, et l'Amérique, malgré tout, ne fait pas partie de l'Europe. Donc depuis des siècles, cette volonté d'être moderne, de moderniser, oriente toute la vie de nos sociétés. Bien entendu, nous sommes partagés. Nous critiquons souvent tel ou tel aspect de la modernisation. Certains même critiquent la modernité en tant que telle. Mais si on prend l'histoire des 2-3 derniers siècles, ou 3-4 derniers siècles, on observe que tous les efforts conservateurs n'ont réussi tout au plus qu'à ralentir le mouvement de la modernité, tandis que les entreprises proprement réactionnaires se sont soldées en général par une accélération du mouvement. Après que un militaire catholique réactionnaire comme le général Franco prenne le pouvoir en Espagne et le garde pendant si longtemps, après sa mort, la modernisation, la démocratisation de l'Espagne n'en est que plus rapide. Bref, soyez antimoderne tant que vous voulez, cela ne gênera guère, sur la durée, le mouvement de modernisation. Nous voulons être modernes. Il y a eu cependant, me direz-vous, dans les dernières décennies, un mouvement intéressant, puisqu'il se désignait comme post-moderne et non pas anti-moderne. Ce mouvement, dont le prestige, me semble-t-il, mais je me trompe peut-être, est plutôt en déclin, concernait surtout les arts et en particulier l'architecture. On le sait bien ici à Montpellier. Certains architectes ne se sentaient plus tenus de produire des bâtiments exhibant les signes toujours plus aigus de leur modernité, mais acceptaient de mêler divers langages architecturaux, de juxtaposer les époques et les styles. De quelque façon qu'on juge les œuvres individuelles de l'architecture postmoderne, il me semble que ce mouvement n'a pas profondément modifié le caractère d'ensemble de l'architecture moderne, et que, par exemple, la propension typiquement moderne alors à construire toujours plus haut est toujours à l'œuvre, comme on le voit à La Défense ou à Abu Dhabi. Jean-François Lyotard a fameusement défini l'époque postmoderne par, je le cite, « la fin des grands récits ». La fin surtout du grand récit progressiste, du grand récit des Lumières, qui porte l'Occident depuis des siècles. Il est vrai, on l'a souvent remarqué récemment ou dans les dernières décennies, il est vrai que nous n'avons plus la foi de nos pères ou de nos grands-parents dans le progrès. Il est vrai que nous avons le sentiment que le progrès aujourd'hui ne cesse de rencontrer toujours plus vite ses limites, ou ses, comme on dit, effets pervers. Mais le grand récit progressiste, notre grand récit n'a pas été remplacé. Il reste, je crois, la seule représentation collective qui garde parmi nous quelque autorité. Le postmoderne, pour en finir avec lui, mais je lui souhaite longue vie, le postmoderne est un moderne qui fatigue ou dont la foi faiblit, mais c'est un moderne encore et toujours, parce qu'aucune autre proposition n'est venue remplacer l'injonction maintenant séculaire « Soyez moderne » ou « Soyons modernes, résolument moderne » ou, je crois, je ne sais plus, comme disait Rimbaud, « Il faut être absolument moderne ». Donc je partirai de là. Donc nous voulons être modernes, nous nous donnons à nous-mêmes l'ordre d'être modernes. Mais, il me semble, si cette volonté est à l'œuvre depuis des siècles, si cet ordre est donné et en vigueur depuis des siècles, cela signifie que nous ne sommes pas encore parvenus à être vraiment modernes, que le terme de la marche que nous avons cru voir se dessiner plusieurs fois s'est révélé trompeur, une sorte de mirage. Que 1789, auquel le professeur Rousseau faisait allusion, 1917, 1968, 1989, ne sont que des étapes décevantes sur un chemin qui conduit nous ne savons où. Les Hébreux ont eu de la chance, ils n'ont erré que 40 ans dans le désert. Si cette volonté d'être moderne, si cette injonction d'être moderne ne cesse de bouleverser les conditions de la vie commune, de faire se succéder les révolutions aux révolutions, sans jamais parvenir à se satisfaire, sans jamais parvenir à un terme où nous puissions nous reposer en disant « éreinté mais heureux comme Tintin au Tibet », nous pouvons nous reposer, nous sommes parvenus au terme de notre entreprise. Si cette volonté ou cette injonction ne se saisit jamais de son objet, qu'est-ce que cela veut dire? Comment avons-nous pu vouloir pendant si longtemps et accepter d'être si souvent déçus? Est-ce que peut-être nous ne saurions pas ce que nous voulons vraiment quand nous voulons être modernes? Ou est-ce que ce que nous voulons en fait, ce n'est pas parvenir au terme, mais c'est le mouvement même, le voyage même, l'aventure même. Devenir moderne serait alors une tâche infinie que nous ne voulons aucunement voir finir. Alors, je ne sais pas s'il est possible de répondre de manière satisfaisante à ces questions, mais nous devons essayer de le faire, si du moins nous avons le souci de nous comprendre nous-mêmes. Alors comment allons-nous procéder? Vous savez ce qui vient d'abord à l'esprit dans ces cas-là. Quand on ne sait pas bien en quoi consiste quelque chose, en l'occurrence qu'est-ce qui est moderne, on se demande quand cela a-t-il commencé. Nous avons une meilleure chance de comprendre de quoi il s'agit une fois que nous aurons compris comment cela a commencé. Quelle fut la genèse de ce quelque chose? Comment la modernité a-t-elle commencé? Quelle fut la genèse de la modernité? Telles sont les questions que nous posons volontiers et à bon droit. Alors la démarche est légitime, elle est même nécessaire, mais elle suscite immédiatement des difficultés. Les commencements, par définition, sont obscurs. Les premières pousses sont difficiles à discerner. On peut se tromper aisément. Ainsi, cherchant ce qui est moderne, nous cherchons la clarté dans des commencements qui sont nécessairement obscurs ou incertains. Cette œuvre, cette idée, ce style littéraire ou architectural, est-ce ancien, est-ce moderne? À quel moment commencerons-nous à chercher les commencements de la modernité? Au XVIIIe siècle, comme le suggérait le professeur Rousseau, à l'époque des révolutions américaines et françaises? Au XVIIe siècle, à l'époque de l'explosion des sciences modernes de la nature? Au XVIe siècle, à l'époque de la réforme religieuse? Comment répondre? Ces diverses réponses ne sont pas contradictoires, bien sûr, puisque la modernité comporte assurément, parmi ses constituants, la réforme religieuse, ou les réformes religieuses, car il y a aussi une réforme catholique, appelée longtemps la contre-réforme. Elle comporte aussi la science, dite précisément moderne, et les révolutions politiques, que l'on dira modernes, démocratiques, les révolutions des droits de l'homme. Mais quel rapport entre la foi de Luther et la science galiléenne? N'y aurait-il pas une sorte de disposition première, de disposition intellectuelle et morale qui définirait l'homme moderne? Ou alors, devons-nous en rester à la dispersion, à l'addition des éléments du moderne, de la modernité, qui serait un patchwork tenu ensemble par la magie d'un mot, le mot moderne, modernité? Ce sont des questions difficiles. Partons du seul point incontestable dans la série de perplexités que je viens de dérouler. Nous voulons être modernes. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que nous voulons exactement pour savoir que, voulant ainsi, nous formons un projet. Ce terme, je l'ai gardé pour mon titre, est décisif. La modernité, quoi qu'elle soit d'autre, est d'abord un projet collectif formulé en Europe, mis en œuvre d'abord en Europe, mais destiné dès l'origine à toute l'humanité. Or, qu'est-ce qu'un projet? Ce n'est pas rien. Un projet, cela comporte beaucoup d'éléments. Et si nous cernons d'un peu plus près ce qui est impliqué dans un tel projet, nous apprendrons des choses qui ne sont pas triviales sur le projet moderne. Former un grand projet collectif destiné finalement à l'humanité tout entière, comme les Européens l'ont fait, réclame d'abord une grande foi, au sens de la confiance dans ses propres forces. On dit souvent que dans la société règne le droit du plus fort ou la loi du plus fort, peut-être. Mais le fait est que rares sont les hommes ou les groupes d'hommes qui ont confiance dans leurs propres forces. Or, les Européens, lorsqu'ils ont conçu le projet moderne, ont manifesté une extraordinaire confiance dans leurs propres forces. Un grand projet collectif suppose cette grande confiance dans ses propres forces. Une chose me frappe dans le développement de la science moderne qui est rarement remarquée, me semble-t-il, mais je n'ai pas lu tous les livres. voyez la confiance extraordinaire de Bacon, de Descartes, dans la capacité de la nouvelle science à transformer radicalement les conditions de la vie humaine. Quelle foi ils eurent ! Quelle foi aveugle, est-on tenté de dire, ils eurent dans le progrès ! Pourquoi aveugle ? À l'époque de Bacon, à l'époque de Descartes, la science moderne n'avait encore produit, pour ainsi dire, aucun de ses effets, ou presque. Les fameux miracles de la science étaient encore à venir. Descartes, avec une confiance extraordinaire, incroyable, imagine la médecine allongeant prodigieusement la vie humaine, alors même que la médecine de son temps est incapable de rien guérir, et que lui-même, comme vous le savez, se fait des idées étranges de la circulation du sang. Confiance dans ses propres forces. Foi. Un projet, d'autre part, suppose que nous sommes capables d'agir et que notre action est capable de transformer notre situation ou les conditions de notre vie. Beaucoup d'analystes de la modernité, surtout d'ailleurs lorsqu'ils sont critiques de la modernité, ont insisté sur le second point, transformer notre situation. Ils ont insisté sur l'ambition transformatrice, on dira aussi fabricatrice, du projet moderne. C'est un thème de la critique anti-moderne d'auteurs comme Heidegger, par exemple, ou Hannah Arendt. L'homme producteur de lui-même, l'ingénieur des âmes. Cela est fort important, en effet. Mais il ne faut pas passer trop vite sur le premier point. Un projet suppose que nous sommes capables d'agir. Capables d'agir, dire nous sommes capables d'agir, cela contient, si j'ose dire, tout un monde. Les hommes, direz-vous, ont toujours agi. Oui, sans doute, dans une certaine mesure. Mais ils n'ont pas toujours su qu'ils étaient capables d'agir. Parce qu'ils ont toujours pressenti qu'il y a quelque chose de terrible dans l'action humaine. Au commencement, vous le savez, les hommes cueillent, pêchent, chassent. Ils font même la guerre, qui est une sorte de chasse, mais ils agissent le moins possible. Au commencement, les hommes laissent le plus d'espace possible aux dieux. Et quant à eux, les hommes, ils s'entravent le plus possible par toutes sortes d'interdits, toutes sortes de rites, de contraintes sacrées. Et c'est pourquoi l'action humaine, l'action proprement humaine, lorsqu'elle apparaît, apparaît comme un crime, ou elle apparaît comme crime, comme transgression. C'est précisément, selon Hegel, ce que donne à voir la tragédie grecque, l'action innocemment criminel. La tragédie raconte ce qui ne peut pas être raconté, le passage de ce qui précède l'action à l'action proprement humaine. La tragédie, Œdipe, Antigone, raconte le passage à la cité, l'advenue de la cité. Car la cité rend capable d'agir. La cité, la polis grecque, si vous voulez, la cité est cette mise en ordre du monde humain qui rend possible et significative l'action. Si nous voulons, en tout cas c'est la proposition que j'avance, si nous voulons comprendre le projet moderne, nous devons le comprendre à partir de cette première mise en œuvre de l'action humaine que fut la cité. Alors, la cité grecque ne résulta pas d'un projet, bien sûr, mais c'est dans la cité que, pour la première fois, les hommes purent délibérer et former des projets d'action. C'est dans la cité que les hommes découvrirent qu'ils peuvent se gouverner eux-mêmes et qu'ils apprirent à le faire. C'est dans la cité que les hommes ont découvert qu'ils peuvent se gouverner eux-mêmes et qu'ils ont appris à le faire, qu'ils ont découvert et appris la politique. Et donc, si la modernité, quoi qu'elle soit, nous ne savons pas encore ce que c'est un X. Si la modernité se caractérise d'abord comme projet d'action collective, et si la politique est mise en œuvre et mise en ordre de l'action, eh bien le projet moderne doit se comprendre d'abord comme projet politique. Et donc, pour être compris, le projet moderne doit être replacé dans l'histoire du développement politique européen ou occidental. J'ai décidé de vous épargner. Je ne retracerai pas toute l'histoire politique de l'Europe ou de l'Occident. Mais je ne peux pas échapper à la nécessité d'en esquisser, la formule. Je ne peux pas échapper à la nécessité d'esquisser les caractères propres de l'histoire occidentale ou de l'histoire européenne. J'ai insisté sur le mouvement moderne, sur le caractère de mouvement de la modernité, de mouvement qui ne parvient jamais à trouver son terme, à trouver le lieu du repos, le lieu où nous puissions dire « nous sommes arrivés ». Il y a, nous le savons bien, de grandes civilisations hors d'Occident, à l'extérieur de l'Occident, avant l'Occident, et il s'y est passé ou il s'y passe beaucoup de choses, de grandes choses, de belles choses, mais elles ont ignoré le mouvement historique. Elles avaient ces civilisations des chroniques, elles n'avaient pas ce que nous appelons une histoire. Du moins, elles n'avaient pas cette histoire avant que la pression ou l'agression de l'Occident ne les fasse entrer dans l'histoire. Il y a dans l'Occident, dans l'Europe, un principe de mouvement singulier, inédit, unique. Et c'est ce qu'il caractérise. Le principe du mouvement occidental, c'est la politique et c'est donc la cité. Le mouvement de l'Occident commence avec le mouvement de la cité. On a dit, c'est dans tous les manuels, on a dit que les Grecs ignoraient l'histoire, que les Grecs avaient une compréhension cyclique du temps et que le temps orienté de l'histoire commence avec le christianisme, sinon avec la philosophie moderne de l'histoire. Ceci, à mon sens, ne tient pas debout. Les Grecs connaissaient fort bien le temps irréversible de l'histoire politique. Aristote était tout aussi capable que Tocqueville de dire que la démocratie était à son époque le seul régime encore possible. Pour les Grecs aussi, il y avait de l'irréversible en politique, y compris de l'irréversible démocratique ou de la démocratie irréversible. Le mouvement occidental commence donc avec le mouvement de la cité, le mouvement intérieur à la cité et le mouvement extérieur de la cité. À l'intérieur de la cité, la lutte des classes, les pauvres contre les riches contre les pauvres, et la guerre extérieure, la guerre contre les autres cités. La cité, je n'en dis qu'un mot, c'est un monde. Elle a fait apparaître la chose commune, le gouvernement de la chose commune et la mise en œuvre de la chose commune dans des cités ennemies entre elles et divisées à l'intérieur d'elles-mêmes. La cité a produit les énergies politiques et elle a été consumée par elle, par ces énergies politiques. Et donc, là encore, c'est une proposition, c'est une thèse à discuter, bien sûr, mais je suis ici pour proposer des thèses ou formuler des propositions. L'histoire ultérieure apparaît en somme comme la recherche toujours renouvelée de la forme politique qui permettrait de recueillir les énergies de la cité en échappant au sort de la cité. De la cité qui était libre, mais qui fut vouée à l'inimitié intérieure et extérieure. Voilà, à mon sens, la clé, s'il y en a une, de l'histoire occidentale. Recherche de la forme politique qui permettra de recueillir les énergies de la cité sans qu'elles subissent le sort de la cité. Alors la forme qui succède immédiatement à l'Empire, à la cité, pardon, c'est l'Empire. L'Empire occidental, à la différence de l'Empire oriental, est une certaine continuation de la cité. De la cité qui, dans le cas singulier de Rome, a déployé, vous le savez, des énergies si puissantes qu'elle a rompu toutes les limites qui circonscrivaient jusque-là les cités, qu'elle s'est adjointe des populations toujours plus nombreuses et lointaines, jusqu'à sembler sur le point de rassembler le genre humain tout entier. L'Empire occidental renonce à la liberté de la cité, mais il promet l'unité et la paix romaine. Promesse non tenue ou non complètement tenue, mais comme dans le cas de la cité, les énergies politiques et spirituelles survivent à l'échec de la forme et l'idée impériale va marquer l'Occident non seulement par le prestige durable de l'Empire romain, mais sous une forme absolument inédite, elle aussi propre à l'Europe, à savoir l'Église. L'Église catholique, c'est-à-dire universelle, qui entend réunir tous les hommes dans une communion nouvelle, plus étroite que la cité la plus close, plus étendue que l'Empire le plus vaste. De toutes les formes politiques de l'Occident, l'Église fut la plus chargée de promesses, ou est la plus chargée de promesses, puisqu'elle propose, je viens de le dire, une communauté qui est à la fois cité et empire, mais elle est aussi la plus décevante, parce qu'elle ne parvient jamais à rendre politiquement réelle cette association universelle dont elle a éveillé le désir. Voilà, je viens de parcourir l'histoire de l'Europe prémoderne à la vitesse et avec la délicatesse d'Attila, mais mon butin ferait pâlir d'envie le roi barbare, car j'ai rassemblé les éléments de la situation qui va conditionner l'élaboration du projet moderne qui est, je vous le rappelle, notre sujet. Alors comment caractériser cette situation? D'où va surgir le projet moderne auquel il va être réponse? Je dirais simplement, les Européens sont divisés entre la cité, l'Empire et l'Église. Ils vivent sous les autorités mêlées et concurrentes de ces trois modes de l'association humaine. Les cités qui subsistent au Moyen-Âge, à la Renaissance, ou qui renaissent, sont en concurrence, c'est-à-dire souvent en guerre avec l'Empire romain, devenu Saint-Empire romain de la nation germanique, et l'Église est en concurrence avec les cités et l'Empire qui sont en concurrence avec elle. Un désordre épouvantable. Un conflit des autorités et des loyautés. C'est cela, le cœur du désordre dont le projet moderne entend nous sortir et nous sortira effectivement. Désordre et conflit de l'histoire prémoderne de l'Europe qui porte sur les institutions, bien sûr, mais aussi plus profondément sur le modèle humain qui doit inspirer la vie européenne. Faut-il suivre la vie d'humbles sacrifices dont le Christ fournit le modèle? Ou faut-il plutôt mener la vie active du citoyen soldat, du citoyen guerrier, dont Rome fut le cadre par excellence? Et entre les païens même, si nous décidons de suivre la vie active, admirerons-nous Caton, le héros républicain, ou alors plutôt César, le premier empereur ou le père de l'Empire? Bref, les Européens, au XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècle, ne savent pas quelle cité ils veulent ou peuvent habiter, et ils ne savent donc pas quel homme ils veulent ou peuvent être. C'est dans cette radicale perplexité, et pour y faire face, que naît proprement, je le répète, le projet moderne. Alors, cernons un peu plus précisément en quoi consiste cette perplexité. En raison du conflit et de la concurrence des autorités, cité, empire, église, les Européens sont submergés par des paroles prestigieuses et contradictoires, paroles de la Bible, paroles des philosophes grecs, parole des orateurs et des historiens romains, et ils ne savent pas comment agir, ils ne savent pas répondre à la question « Que faire ?» parole et action sont disjointes ou du moins mal liées. Le moment moderne cristallise, je crois qu'il cristallise, quand s'enclenche l'effort pour rattacher plus vigoureusement et plus rigoureusement la parole à l'action et l'action à la parole. Voyez ce qui se passe dans la vie religieuse. L'autorité de la parole de Dieu dans l'ancienne Église ou dans l'ancien monde était divisée entre les Écritures d'un côté, la tradition de l'Église de l'autre. La parole de Dieu n'était accessible que par la médiation de l'Église. Eh bien, nous le savons bien, Luther veut attacher immédiatement la foi du chrétien à la parole de Dieu telle qu'on la trouve dans les Écritures, en écartant résolument la médiation de l'autorité ecclésiale. L'Écriture seule. Je viens de nommer Luther, mais c'est Machiavel, à la même époque que Luther, vraiment à la même époque, qui va formuler dans les termes les plus généraux ce qui fait le cœur du problème des Européens en train de vouloir devenir modernes et ce qui sera le principe de la solution. Le problème et la solution tiennent en quelques lignes dans le chapitre 15 du Prince. Je cite Machiavel, « Mais puisque mon intention est d'écrire quelque chose d'utile pour qui l'entend, il m'a semblé plus approprié de considérer la vérité effective de la chose plutôt que l'imagination qu'on s'en fait. Beaucoup se sont imaginés des républiques et des principautés que jamais on n'a véritablement ni vues ni connues, car il y a un tel écart entre la façon dont on vit et celle dont on devrait vivre, que celui qui délaisse ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plutôt à se perdre qu'à se sauver. » Fin de citation. Vous l'avez entendu, si Machiavel se propose de s'attacher à la manière dont les hommes vivent effectivement en écartant leur république et principauté imaginaire, mettons la république de Platon et peut-être même la cité de Dieu, de l'Évangile. Si Machiavel propose de s'attacher à la manière dont les hommes vivent effectivement, c'est parce qu'il y a, dit-il, tanto discosto, un si grand écart entre ce que les hommes font et ce qu'ils disent, entre leurs actions et leurs paroles. Or, le plus grand écart entre paroles et actions est introduit, bien sûr, par les paroles chrétiennes, qui demandent aux hommes d'aimer ce qu'ils haïssent naturellement, et d'abord leurs ennemis, et de haïr ce qu'ils aiment naturellement, et d'abord eux-mêmes. Le christianisme a introduit un écart inédit entre ce que les hommes font et ce qu'ils disent. Ainsi, le projet politique moderne, que Machiavel est le premier à formuler, est une réponse, en tout cas fut d'abord une réponse à une situation, la situation chrétienne, marquée par la concurrence des autorités, le désordre des références, l'anarchie des paroles, et par-dessus tout, le contraste démoralisant entre ce que les hommes disent et ce qu'ils font. Que veut dire alors Machiavel lorsqu'il dit qu'il entend considérer ou suivre la vérité effective de la chose ? Il n'est pas question ici, pour moi, de présenter la pensée complexe de Machiavel, mais je dirais simplement ceci. Il s'agit pour Machiavel de préparer les voies d'une action entièrement libérée des paroles qui louent et qui blâment, religieuses ou autres. Il s'agit de préparer les voies d'une action qui ne put être entravée par aucune parole, parole extérieure de l'institution ou de l'opinion, parole intérieure de la conscience. La parole qui a le plus de poids et qui pour cela même constitue la plus forte entrave à l'action, c'est la parole qui dit « ceci est bien, ceci est mal ». C'est la parole qui distingue le bien du mal. Machiavel, contrairement à ce qu'on dit parfois, ne cherche pas à annuler cette distinction. Il ne confond pas le bien et le mal, mais il s'efforce d'encourager les hommes à se préparer à faire le mal, à entrer au mal, comme il le dit, lorsque c'est nécessaire, politiquement nécessaire. Machiavel s'efforce de faire sauter le verrou de ces paroles qui nous disent ce qu'il faudrait faire, paroles qui ne nous guident guère, puisque de toute façon, nous suivons notre nature et non pas nos paroles, ni les paroles, mais paroles qui entravent notre liberté d'action en limitant pour nous le champ des actions possibles. Il est difficile de dire quel nouvel ordre politique Machiavel envisageait concrètement. Disons qu'en délivrant les hommes de tout respect pour quelque opinion, pour quelque parole que ce soit, religieuse, morale ou autre, il les préparait à toute action possible. Il les préparait à tout. Il dégageait le terrain pour toute action possible, y compris la plus audacieuse et la plus ambitieuse, y compris la plus révolutionnaire. Parmi les actions audacieuses et ambitieuses dont l'Europe va être le théâtre, celle conduite par l'État moderne est sans doute la plus décisive. Je l'ai dit, le christianisme rend incertain les motifs de l'action et douteuses les paroles qui doivent faire autorité dans la cité. C'est bien cela la situation chrétienne, le conflit des autorités. Eh bien, l'État moderne, c'est précisément ainsi qu'il devint moderne et souverain, il résout ou surmonte ce conflit en attirant à lui le monopole de la parole qui commande, plus précisément et plus audacieusement, en produisant un commandement qui soit indépendant de toute opinion, y compris ou surtout religieuse, un commandement qui autorise ou interdit les opinions selon sa décision souveraine. L'État moderne, dit absolu, encore incertain de sa force, s'attacha d'abord une opinion, une parole religieuse, on s'en souvient. Ce fut le temps de la religion d'État. La France toute catholique sous le règne de Louis le Grand. Mais parvenu à la plénitude de sa force, l'État moderne s'est élevé au-dessus de toute parole. Il est vraiment sans parole qui lui soit propre. Il est l'État neutre, agnostique, l'État laïque que nous connaissons et que nous chérissons. L'État constitue ainsi la première moitié, celle qui est décisive, de la solution au problème de l'écart, propre au monde chrétien, entre la parole et l'action. L'État, qui a le droit d'interdire et d'autoriser toute parole, et qui interdira de moins en moins, et qui autorisera de plus en plus. Mais l'État n'est que la moitié de la solution, puisque précisément, et c'est la condition de son efficacité, il n'a pas de parole propre. Et la vie humaine ne peut pas être sans une parole qui ait quelque autorité. Où donc l'État moderne va-t-il trouver la parole? Il va trouver la parole pertinente, la parole politique, dans la société, en devenant, c'est le terme, représentatif de la société, ou le représentant de la société. L'invention et le problème de la politique moderne, nous le savons bien, c'est la représentation. Et les difficultés de la politique moderne sont liées aux difficultés de la représentation. La représentation politique articule la parole de la société à l'action de l'État sans parole ou qui n'a pas de parole propre ou dont la parole doit être celle de la société qu'il représente. Ainsi, voyez comment a été résolu le problème de ce que j'ai appelé les temps chrétiens, le problème de l'anarchie des autorités, de la disjonction et de l'écart excessif entre les paroles et les actions. Il a été résolu par l'État souverain d'un côté, le gouvernement représentatif de la société d'un côté, et de l'autre, évidemment, la société laissée à la liberté de ses actions. Bref, c'est notre régime politique, considéré dans son tout, qui est la solution du problème. Alors, il n'est pas question de décrire le dispositif, ni de faire l'histoire du régime représentatif. Je note simplement deux points qui sont importants, qui seront, je pense, importants pour la discussion. Le premier point, c'est que l'un des facteurs décisifs de la jonction ou de la réconciliation entre les actions et les paroles, c'est la formation d'une parole commune, par l'élaboration, le perfectionnement et la diffusion d'une langue nationale. L'autre facteur décisif, c'est l'articulation de la parole sur l'action par la décision majoritaire. Alors, vous savez que c'est une critique fréquente des ennemis de la démocratie représentative, de dire que ce régime multiplie les paroles, mais est incapable d'action. Lénine parlait du crétinisme parlementaire. Carl Schmitt citait volontiers les sarcasmes de Donioso Cortés contre la bourgeoisie, classe discutante, classe et discutidor. En réalité, et c'est quelque chose dont nous ne mesurons pas l'accomplissement, en quelque sorte, ou les mérites, en réalité, une démocratie représentative, un régime parlementaire qui fonctionne, constitue une admirable articulation des actions sur les paroles. Au moment de la campagne électorale, il y a toujours une campagne électorale, tous proposent toutes les actions imaginables, qu'elles soient possibles ou impossibles. Dès que l'élection est acquise, ceux qui ont la majorité entreprennent d'agir selon leurs paroles, tandis que la minorité, s'abstenant de toute action, se contente de parler pour préparer la prochaine élection. C'est l'alternance, ou la possibilité effective de l'alternance, qui est le cœur du mécanisme. Où en sommes-nous avec le dispositif moderne, le dispositif représentatif qui accomplit le projet moderne ? Montre-t-il une stabilité, une vigueur qui nous donne à espérer que nous sommes parvenus au terme de la route et que le mouvement moderne a finalement trouvé son repos? Il me semble au contraire qu'aujourd'hui, en Europe, le dispositif proprement moderne, le dispositif qui contient la solution moderne du problème politique, ce dispositif est considérablement affaibli et bientôt peut-être méconnaissable. Où en sommes-nous ? Nous nous félicitons sincèrement de l'atténuation des oppositions, tout en nous inquiétant de la crise de l'alternance. Mais c'est nous féliciter et nous inquiéter de la même chose. Le paysage politique a été nivelé. Les nœuds d'affect, d'opinion, de parole qui formaient les convictions politiques ont été dénoués ou se sont effilochés. Dès lors, on ne peut plus accéder au terrain politique en y occupant une position. Nicolas Sarkozy me semble un révélateur de la situation présente. Il occupe, par la parole, toutes les positions possibles sur l'échiquier politique. Mais il révèle une tendance générale. Aujourd'hui, tous les acteurs politiques parlent toutes les paroles. Pourquoi ? Voici du moins une tentative de réponse. Dans la dernière période, me semble-t-il, la parole politique a été progressivement dégagée de tout rapport essentiel à une action possible. La notion de programme, si importante il y a encore 20 ans, la notion de programme, réduite à celle de promesse, a été discréditée. S'est répandue la conviction, explicite ou sourde, que de toute façon, on n'a pas le choix. Ce qu'on fera sera dicté par des circonstances sur lesquels on n'a pas de prise. Dès lors, la parole politique n'a plus pour but de préparer une action possible, mais simplement de couvrir consciencieusement le champ de la parole politique. Chacun ou presque admet que la rencontre finale entre son action et sa parole et son action, sera en somme la rencontre de chaînes causales indépendantes. Ce divorce, aujourd'hui béant, entre l'action et la parole, contribue, je crois, à expliquer le rôle inédit du politiquement correct. Le politiquement correct est un aspect particulièrement significatif, me semble-t-il, de l'autonomisation contemporaine de la parole politique. On n'attend plus que la parole soit liée à une action possible. Et donc, puisqu'elle n'est plus liée à une action, elle est prise au sérieux comme si elle était elle-même une action. Et comme elle n'est pas liée à une action possible et plausible qui en mesure la portée, elle est aisément considérée, cette parole, si elle déplaît, comme l'équivalent de la pire action imaginable. On traque alors ces paroles infâmes que l'on désigne dans le langage des nosographies comme des phobies. Les progrès, nous nous en souvenons encore, mais de moins en moins, les progrès de la liberté en Occident ont consisté à mesurer les paroles à l'aune des actions visibles. C'était cela le progrès. Le politiquement correct consiste à mesurer les paroles à l'aune des intentions possibles. Les traits que je viens de rappeler de la situation politique de nos pays se retrouve sous une forme accentuée dans le cadre européen. Ce qui caractérise la situation européenne, c'est que ce que nous disons comme citoyens n'a aucune importance, puisque les actions politiques seront décidées en un lieu indéterminé, un lieu que nous ne pouvons pas situer par rapport au lieu dont nous parlons. La seule chose que nous sachions, c'est que ces actions, on nous le répétera suffisamment, seront nécessaires. Apparaissent en tout cas nécessaires les actions qui ne sont accompagnées d'aucune parole proprement politique ou sur lesquelles les paroles politiques les plus solennelles, comme un référendum, n'ont aucune prise. Tout le monde sait bien en Europe que la parole la plus solennelle que puisse formuler un peuple, à savoir un vote référendaire, est considérée d'avance comme chose indifférente par la classe politique européenne, qui s'estime chargé de conduire le processus nécessaire de la construction européenne. La nécessité supposée du processus discrédite et invalide d'avance toute parole politique. Si le processus se poursuit, nous sortirons bientôt vraiment du régime représentatif pour revenir à un commandement sans parole. Ce commandement ne sera plus celui de l'État, qui du moins occupait un lieu élevé, mais celui de la règle d'origine indéterminée. La règle qui dit qu'il faut être vacciné ou qu'il ne faut pas être vacciné, la règle qui dit que les avions doivent voler ou que les avions ne doivent pas voler. On ne sait pas d'où vient la règle, seulement qu'on doit lui obéir. Donc, le dispositif ou le processus qui s'impose de plus en plus en Europe est le suivant. Des actions en conformité de principe avec une règle sans parole. Des paroles sans rapport avec une action possible. Il me semble. Ici, je viens à la conclusion de mon propos, qu'avec la fin ou l'affaiblissement du régime représentatif qui articulait les paroles et les actions dans le cadre national, l'ordre politique moderne approche du terme de son parcours. Bien sûr, les sciences et les techniques, de leur côté, continuent de courir, mais elles sont de plus en plus détachées du cadre politique dans lequel elles trouvaient leur sens et leur utilité quand la modernisation de la vie nationale, dans tous ses aspects, était la tâche évidente et commune. Aujourd'hui, l'environnement, le climat, on le dit suffisamment, sont devenus des questions mondiales, soit, mais cela signale la disjonction entre le progrès technique, scientifique, ses effets, et le cadre politique moderne. Nous assistons à un divorce de plus en plus profond entre le processus de civilisation et le dispositif politique. L'ordre de plus en plus complet et contraignant de la vie ordinaire, le réseau de plus en plus serré des règles auxquelles nous obéissons, avec de plus en plus de docilité, et même, je le crains, de plus en plus de servilité, ne doivent pas nous masquer l'incertitude croissante c'est-à-dire le désordre croissant de la forme de vie commune. Nous évoluons, si je puis dire, sur une glace de plus en plus fine. Je voudrais cerner un peu précisément une forme précisément d'indétermination. Et ce n'est pas facile de cerner précisément une situation indéterminée, mais je vais essayer pour conclure. Nous revenons à une situation d'indétermination politique comparable, il me semble, en tout cas comparable en un sens, à celle qui a précédé la construction de la politique moderne. Avec une grande différence cependant, durant l'époque prémoderne que j'évoquais il y a une demi-heure, il y avait un trop grand nombre de formes politiques concurrentes qui s'empêchaient l'une l'autre, cité Empire-Église. Et il fallut donc inventer et produire la forme politique inédite de la nation ou de l'État-nation. Aujourd'hui, c'est en somme l'inverse. Nous observons non pas l'excès, mais la disette des formes politiques. Je parle ici pour l'Europe. Au moins en Europe, la forme nation est largement discréditée, largement délégitimée, sans qu'aucune autre soit clairement en voie d'élaboration. Non seulement cela, mais l'opinion autorisée, je n'ose dire l'opinion unique, car il n'y a jamais d'opinion unique, Dieu merci, dans nos sociétés tout de même, mais l'opinion la plus autorisée nous martèle depuis au moins une génération que l'avenir appartient à un processus de civilisation délocalisé ou mondialisé et que nous n'avons tout simplement plus besoin de formes politiques. Ainsi, la nécessité d'articuler les paroles et les actions a-t-elle été perdue de vue. Ce qu'on appelle les populismes, et qui effarouchent tant les honnêtes gens, ne sont que des façons de faire retentir une parole qui semble politique, parce qu'elle réaffirme l'existence et la légitimité des groupes humains constitués, l'existence et la légitimité des classes, l'existence et la légitimité des nations. Mais cette parole des populismes reste en deçà de la politique, puisque précisément, elle ne propose pas d'action effective. Les populistes ne croient pas, visiblement, à l'action qu'ils font mine de proposer. L'Europe a produit la modernité, je pense qu'on peut le dire ainsi. Pendant une longue période, au moins jusqu'au début du XXe siècle, elle en a été maîtresse et possédante. Elle a mis la modernité, l'ensemble des instruments de la modernité, au service presque exclusif de sa puissance. Mais, je l'ai dit dès le début, le projet transformateur était en lui-même destiné à l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, Bacon et Descartes règnent à Shanghai et Bangalore, au moins autant qu'à Paris et Londres. L'Europe se trouve politiquement désarmée dans un monde qu'elle a armé des instruments de la civilisation moderne. Elle sera bientôt entièrement incapable de se défendre. Elle est depuis longtemps incapable de se dire, puisque l'Europe, pour les Européens, ou pour la majorité d'entre eux, se confond avec l'humanité en voie de pacification et d'unification. La tâche des Européens, s'ils veulent lier à nouveau les paroles et les actions, c'est ceci qui est pour nous l'enjeu. La tâche des Européens est d'élaborer une parole qui soit distincte et qui leur soit propre. Une parole qui ne soit pas soluble dans l'humanité mondialisée. Quelle serait cette parole? Bien sûr, je l'ignore. Les grandes paroles naissent sur les bords problématiques des associations humaines, là où elles rencontrent leurs limites, là où elles rencontrent d'autres associations humaines, comme la philosophie qui naquit aux limites de la cité d'Athènes, comme le christianisme qui naquit à l'interface, si j'ose dire, du peuple juif et de l'Empire romain, ou plutôt gréco-romain. Quelle parole européenne naîtra à l'interface de l'Europe et du monde, quelle parole sur cette frontière que les Européens repoussent toujours plus loin? sur cette frontière dont ils ne veulent pas ou qu'ils ne veulent pas voir. Prenant notre envie de mourir pour la preuve de notre moralité supérieure, nous nous refusons, nous nous arc-boutons contre la parole la plus nécessaire, celle qui nous serait propre. Nous regardons avec réprobation et même répugnance la condition de notre préservation, de notre vie continuée, comme un élément significatif de la vie du monde. En tout cas, et j'en termine ici, cette parole européenne, si elle doit advenir, naîtra de notre confrontation politique et spirituelle avec les grands acteurs du monde présent, dont tout le monde sait les noms, États-Unis, Chine, Russie, Brésil, monde musulman, que sais-je. Cette parole européenne suppose en tout cas, elle a pour préalable l'affirmation de notre existence politique comme un acteur indépendant dans le monde. Au commencement était la parole, dit l'évangile de Jean. Au commencement était l'action, corrige le Faust de Goethe. N'étant ni Dieu ni diable, du moins je l'espère, je dirais simplement, la parole qui a du sens suit de bien près l'action qui commence. Et le seul propos de ma faible voix ce soir fut d'encourager l'action qui commence. Je vous remercie.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que
Das Kapital, il ne dit pas der Kapitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010, à la découverte de nos origines, une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais.
Ainsi s'achève cette soirée proposée par l'Agora des Savoirs qui recevait ce soir Pierre Manant, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, pour une conférence qui s'intéressait aux naissances de la politique moderne. Suite de ce troisième cycle portant sur la modernité, la semaine prochaine, mercredi prochain, avec Marc Lachiezeray, directeur de recherche au CNRS, au Commissariat à l'énergie atomique de Saclay, pour une conférence dont le thème sera « La vision moderne du temps conduit-elle à sa disparition ?» Les révolutions successives qui ébranlèrent l'ancienne physique de Galilée et Newton semblent nous avoir rendu le temps incompréhensible. Pire, les physiciens tendent désormais à se passer de la notion de temps afin de mieux en débusquer les origines. Mais qu'est-ce que nos physiciens ont pu bien faire de ce bon vieux temps? Réponse la semaine prochaine. Donc, cette soirée vous était proposée par Divergence FM avec Bruno Bertrand pour la captation, Elie El Kaïm en régie finale et Emmanuel Plaza pour la présentation. On vous souhaite une bonne soirée à l'écoute des programmes de Divergence.
93.9 Divergence FM.